podcast.com. Essaye ça.
Ça, la toune que vous êtes en train d'entendre, là, ça vient du Nintendo. Puis c'est un des meilleurs jeux Nintendo. Le 8-bit, là, comme dans le temps. Là. Puis c'est rare, en fait, les gens, tu sais, mettons, tu lui dis t'as-tu déjà joué à ça? Le monde, il dit non, je sais pas, c'est quoi ça? Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Brother Brand. Puis dans mes souvenirs, c'est d'anglais d'Angleterre. Puis, ce jeu-là, là, ça mélange deux des affaires que je préfère dans le monde, là, c'est-à-dire les espèces de top view à la Zelda et les petits jeux de vaisseau shooter. T'as plein d'armes différentes. C'est un bijou méconnu du NES. Ça s'appelle The Guardian Legend. Vous allez voir, la toune aussi est quand même assez excellente. Ça fait souvent les compilations de jeux vidéo méconnus excellents, là, et voilà, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Ça va être probablement la dernière fois qu'on en a parlé ce soir. Vous allez avoir la trame sonore en background parce que vous êtes à Terrain Basique, et Terrain Basique, on se targue en se vantant tout en étant prétentieux d'être le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Et pour gérer ça de main de maître, j'ai mon ourson, mais j'ai aussi mes deux autres oursons, hein, les deux fertiles à souhait. On a François Lompré qui est avec nous.
Salut les magiciens, les magiciennes.
Eh boy, comment ça va, Lompré?
Ça va relax, ce soir.
Ok, c'est bon. Je
relax.
C'est bon, ça. Et bien entendu, le Sphinx qui est l'épine dorsale de ce projet, Jason Keys. Salut, Jason.
Hey boy. Bonjour.
Ben oui, hein, les grosses responsabilités. Fait que, ben écoute, on pourra pas s'en cacher. Il y a un autre set qui sort, une espèce de two-parter qui est arrivé en deux parties. On a eu Midnight Hunt et ensuite on a parlé. Il y a quelque chose qui s'appelle Crimson Vow qui s'en vient tout prochainement.
Demain.
Hein, Colin, ça veut dire que c'est les pré-releases en fin de semaine. Nous, on est Team Abyss. Il y en a plusieurs. Hein, ça vaut la peine de prendre ça. T'sais, c'est une habitude qui est un peu morte. Là. Mais juste comme sortir puis d'aller voir du monde, on encourage la communauté de Magic locale à donner un petit boost au début. Vous allez voir, ça va revenir rapidement. Mais c'est le temps. Là, c'est le temps de surtout les personnes vacciné, genre, là, je dirais. Je veux pas trop parler de ça. Là,
c'est assez facile. Les encourager, justement, Tommy, l'Abyss, c'est c'est à 17h vendredi, midi et 17h samedi, midi et 17h le 14. Il faut réserver votre place en avance, mais ça se fait rapidement, là. Vous appelez, puis ils vont tous vous régler ça. Dans leur fantastique magasin.
L'expérience, je suis déjà arrivé proche du deadline, puis ils m'ont pris pareil.
Bah oui, c'est
ça. Ils pas de chance de téléphone.
On ne dit pas non à des joueurs. Hein. Moi, pour ma part, je vais aller à un de mes magasins ici à Gatineau, là, puis on va s'en reparler la semaine prochaine. Mais justement, puisque le pre-release s'en vient, je me suis dit que j'allais faire notre traditionnel guide des archétypes là, du format limité de Crimson Vow. Que ce soit en seal, ça marche, mais préférablement en draft. On va passer à travers ce soir. Là. C'est pas mal là-dessus qu'on va se concentrer. Et je vais saupoudrer le tout un peu de lore. Là. Chaque carte raconte une histoire. Hein, fait qu'on va se plonger là-dessus. Donc, on a eu beaucoup de bons feedbacks. Là. Ça fait quasiment un an et demi qu'on fait des draft guides à Terrain Basique. On avait commencé à Ikoria. Dans le temps, c'était Marc-Antoine qui faisait, mais il est rendu trop occupé de paternité. Fait que Emmanuel avait pris la relève. Et maintenant, c'est moi parce qu'Emmanuel est dans le sud. Fait que écoute, j'ai eu des bons commentaires sur le prochain, le dernier là, qu'on a fait sur Midnight Hunt. Fait que je continue là-dessus. Mais avant, j'aimerais juste mentionner, j'ai découvert, Tommy, que Terrain Basique se fait canceller.
What?
Oui, on se fait censurer, Tommy, canceller.
OK, la grosse woke culture qui vient de nous.
Ben non, non, le vrai ennemi, Tommy, le corporate culture. Oh, je me suis rendu compte que nos vieux épisodes disparaissaient de Spotify. tout simplement. Okay. Donc, si vous voulez écouter des épisodes de Terrain Basique avant les épisodes 50, ben, c'est impossible par Spotify, ça a disparu.
Okay.
Donc, ça, chaque semaine, il enlève un épisode. Il ajoute un épisode, il enlève un épisode. Je dis ça à la blague, on n'est pas cancellés, là.
Okay.
C'est nos compétiteurs qui payent Spotify.
Tu peux éteindre la torche. Tu peux éteindre la torche. C'est nous qui étions partis, lui, là. Ben écoute.
Tout ça pour dire qu'écoutez Terrain Basique sur Radio H2O.
Oui.
Vraiment meilleur. Il y a tous nos vieux épisodes sont là. Si vous voulez faire du rattrapage, sont tous là-bas. Vous tapez Google, là, vous allez les trouver. Mais sinon, on va se plonger dans le. Oui, vas-y, Frank.
Je voulais juste peut-être inviter les gens qui nous suivent beaucoup sur Facebook. S'ils veulent nous envoyer des mimes, on est très preneurs en ce moment. C'est l'imagination et la créativité, c'est toujours le fun de voir et de participer.
T'en as fait une belle nouvelle batch. Hein. Moi, j'aimerais ça qu'il y en aille un par jour. Quitte à faire deux par jour, on a une belle communauté. Ouais. On est très capable de vous inclure dans notre discussion Facebook. On parle de Magic, puis on fait des memes. Fait que,
si vous avez des jokes de Magic en image, envoyez-nous-la sur Facebook, on va la poster.
C'est ça. Puis ça va être un combat à mort entre les trois meilleurs qui ont proposé. Moi, j'aime ça, les combats à trois. Comme ça, il y a tout le temps comme une espèce d'alliance par rapport qui se fait, là, puis les rengaines, puis ça finit en sang partout. Il y a plus de sang s'il y a trois personnes, c'est logique. Oui. À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un de très gros, puis ils sont deux, là, mais en tout cas, on se comprend. Là. Hey, j'ai joué en ici, moi, en tout cas, Magic Arena, j'ai fait plein de drafts, là. Puis c'est encore avec blanc-vert que ça a le plus torché. De Crimson Vow, là. Non, Midnight Hunt. C'est weird parce que les deux derniers sets, ça a été comme mon combo de couleurs que j'aime le moins, qui a scoré le plus, puis je me sens sale.
Mais Coven, t'es à l'aise avec ça?
Ouais, je sais pas. En tout cas, ça score en esti. Mais c'est pas vrai, dans Forgotten Realm, j'avais fait, je pense, mon deck le plus fort, il était bleu-rouge. Avec plein de trésors puis un Rust Monster, là, j'ai tué
4-5e
tour, ça avait brassé. Mais là, j'essaie de creuser dans ma mémoire, puis il me semble que j'ai joué comme vraiment beaucoup en fin de semaine, la Magic Arena. Puis j'ai pas eu comme une carte qui ressortit. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui,
c'est.
On peut aller à d'autres choses.
On va aller dans les cartes qui vont sortir.
Ah oui, c'est en fait, c'est les affaires de Coven. Oui, c'est Coven qui est. C'est ça. T'avais raison depuis le début.
C'est fait, okay. Écoute la Sphinx.
C'est ça. Oui, vas-y.
Tommy, il y a des blancs de mémoire sous les termes. Il y a tellement de termes de Magic, on l'excuse. Moi, j'étais très. Je sais pas ce que t'en penses, Frank. T'as-tu un bon feeling pour Crimson Vow?
Ah oui. Ben. Ouais. En termes de puissance, c'est pas ce que j'ai vu ce qui était brisé ben raide. Là.
On parle pour le draft.
Ça a l'air le fun à jouer. Pardon.
Ouais.
À drafter et tout. Là.
Moi, j'ai été surpris à quel point. C'est comme la continuité de l'autre set, mais il feel vraiment différent.
Ouais.
Puis les archétypes sont pas partout pareils. Vous allez voir ce soir, c'est les mêmes paires de couleurs, là, mais je veux dire, c'est pas le même, les mêmes interactions partout. Donc, on s'en va voir ça à l'instant. Donnez-moi 5 secondes. Crimson Vow, c'est le premier. On va y aller dans le plus facile. Là. On avait parlé le fameux mariage des vampires. L'archétype noir et rouge, qui est probablement l'archétype principal de vampire dans le set. Donnez-moi une
petite. Ça revient quand
donc,
même.
Tu sais, à chaque set, tu as tout le temps ce qu'on appelle les signposts, là, c'est-à-dire les cartes dorées qui t'indiquent un peu comment tu vas drafter quand tu veux aller dans cet archétype-là. Hein. Y a moins de gold cards dans Midnight Vow qu'il y en avait dans Crimson Vow qu'il y en avait dans Midnight Hunt. Dans Midnight Hunt, on se rappelle, il y avait des cartes flashback deux couleurs qui indiquaient un peu comment drafter dans ces couleurs-là. Cette fois-ci, c'est pas le cas. C'est tout le temps une créature uncommon gold. Pour l'archétype noir et rouge, c'est la mécanique Blood. On avait parlé la semaine passée. C'est, dans le fond, tu vas vouloir créer des tokens de Blood, puis tu vas pouvoir avoir des payoffs avec ça. Par exemple, le Blood Tide Harvester, qui est un vampire uncommon noir et rouge. Quand il rentre sur le battlefield, tu crées un Blood token. C'est un 3-2. Fait que ça trade assez facilement. Mais surtout, tu peux le taper et le sacrifier pour qu'une créature a moins X, ce qui est le double du nombre de blood tokens que tu as en jeu. Sauf que malheureusement, tu peux juste l'activer pendant ton tour. C'est en sorcery, tu peux pas le faire en instant. Mais ça donne un peu une idée, là. Quand tu drafts et tu pognes ton Blood Tide Harvester, tu peux construire autour de ça avec des cartes qui vont te créer des tokens blood, puis lui-même en crée un. C'est très noir-rouge. Noir-rouge dans l'ancien set de Midnight, il était très aggro rapide. Ouais. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus lent. Là. C'est beaucoup plus comme contrôle, faire des token blood puis mettre des affaires dans ton graveyard. Fun fact, là, je n'avais déjà parlé, le Blood Tide, c'est la taxe du sang. On voit sur le dessin, là, c'est les fameux vampires qui passent dans les villages pour récolter le sang des paysans pour que les vampires ont du sang à boire au mariage.
Ouais, il est en train cool. de checker s'il est pur. Là.
Ouais, là, il a mis son doigt dedans. Là.
C'est vraiment content. Hein?
Ça vient pas d'une chèvre, c'est 3-2 pour 2 quand même, on aime ça.
Une carte, là, pour un bon exemple de carte qui permet de le payoff, là, c'est le Restless Bloodsucker, où ce qu'on voit encore un vampire, là, justement, qui taste le sang au mariage. C'était un 3 pour 2, hein, quand je vous ai dit que c'est un petit peu moins aggro. Là. Bon, à ton end step, si tu as gagné de la vie ce tour-ci, tu crées un Blood Token. Bien sûr, dans le noir, c'est très facile d'avoir des affaires lifelink. Puis tu peux sacrifier 2 Blood Tokens pour transformer ton Restless Bloodsucker. Il devient alors un 3-3 que à ton end step, si tu as gagné de la vie, tu vas créer un Blood Token. Donc, il maintient cette habilité-là. Mais surtout, tu peux payer 5 pour socker 2 points de vie de ton adversaire et toi gagner 2 de vie.
Et
donc,
tu vois, un Blood Token.
Puis là, ça te crée un Blood Token. Puis ben oui. Tu peux goes off avec ça. Ça, c'est dans le Uncommon. J'aime vraiment le dessin, il est vraiment nice. Tu vois, quelqu'un qui est du bord pas transformé, là, il se met le petit doigt de sang dans la bouche pour tester ça. Puis il trouve ça bien bon. Puis il se met à pisser du sang partout. Dans les communes, puis dans une autre Uncommon que vous avez. Qui est un peu dans cet archétype-là, c'est le Blood Hypnotist. 2 colorless, un rouge pour un 3-3. Tu sais, c'est quand même le minimum, là. Tu sais, un 3 pour 3, là, c'est vraiment. C'est parfait, là. C'est ce que tu as besoin.
C'est correct. Ouais, c'est ça.
Il ne peut pas bloquer, mais on s'en fout. Cependant, si tu sais. Quand tu sacrifies un ou plusieurs Blood Tokens, tu as une créature qui ne peut pas bloquer ce tour-ci. Fait que ça te permet d'attaquer et de ne pas se faire bloquer. Fait que tu vois, il y a plusieurs payoff comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. Le Belligerent Guest, ça, c'est la mauvaise invitée. Là, on voit, elle pète un dispensaire de sang avec sa main. Là. 2 colorless, un rouge pour un 3-2
Trample. Elle pète la vaisselle.
Elle pète la vaisselle. Deux colorless, un rouge pour un 3-2 Trample. Si tu bloques avec un 2-2, ça va faire un dégât à l'autre. Aussitôt qu'elle fait du dégât à ton adversaire, tu crées un Blood Token. Fait que ton but là, de cet archétype-là, c'est de tout le temps avoir des Blood Tokens en jeu. Puis là, t'as le vrai payoff. Là. Ça, vu que c'est une commune, vous pouvez essayer d'en avoir plusieurs. C'est le Blood Crazed Sosalite. 3 colorless, un noir. Donc, pour 4, tu as un 3-3 menace, donc difficile à bloquer. Quand il rentre sur le battlefield, il crée un Blood Token, mais surtout, à chaque fois qu'il attaque, tu peux sacrifier un Blood Token pour y donner +2/+2, donc il devient un genre de Zuzamjin, un 5-5. Tu sais, il y a menace, tu as juste besoin de toucher l'autre 4 fois, puis la game est finie. Là. C'est vraiment le core de l'archétype.
Ouais, je t'ai créé, OK. C'est des vampires, ils font le party, puis à un moment donné, il y a une madame qui est rendue tellement high sur le stuff que ça en va péter des gueules.
Je pense que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter.
Oh, c'est toi, t'es sous, il est dans de l'air cassé.
Qu'est-ce que t'en penses, Frank, de ce archétype-là?
Ça peut faire quelques ravages, hein, là, ça. Mais, ouais, je préférais la version aggro.
Ah, excuse, il y avait une carte que j'aime beaucoup, c'est... Tu vois, dans le même genre, dans le même archétype, le Pointed Discussion, Sorcery, 2 colorless, un noir, tu piges 2 cartes, tu perds 2 de vie, puis tu crées un Blood Token. Ça, il y a ça dans toutes les sets, là, c'est le basic, là, tu sais, 2 cartes, 2 de vie, puis j'ai 2 cartes pour 3 et 2 de vie. Mais lui, en plus, il donne un payoff d'un Blood Token, puis c'est une commune, fait que tu peux en avoir une ou deux, ça vaut la peine. Puis on voit sur la carte, là, c'est quand ils sont en armure rouge avec des pics sur les épaules, c'est des Markov. Puis quand c'est en noir et or, c'est des Voldaren.
OK.
Fun fact. Fait que vous allez voir, là, il se répète. Tu vois même le crowd en arrière. Là. Ça, c'est la discussion politique autour de la fontaine de sang. Fun fact, je me suis amusé à compter le nombre de cartes dans Crimson Vow où qu'on voit du sang qui dégouline. Il y en a 59.
T'aurais dû nous demander de guesser. 59.
C'est le même nombre que les chandelles dans Midnight Hunt. Dans Midnight Hunt, il y a des chandelles partout.
Oh, ta gueule.
Non, mais je te dis, c'est que j'observe beaucoup l'art, puis je trouve ça paresseux. Puis c'est vraiment comme, le concept, c'est comme, OK, faut qu'on t'sais, on véhicule l'histoire. Fait que là, ils disent à l'artiste, faut qu'il y ait du sang quelque part sur la carte. Ça me fait rire.
OK. Fait que
c'est Halloween confirmed.
T'es en train d'un petit peu comme dire que leur processus de faisage de cartes pourrait être amélioré. C'est un petit peu ça que t'es en train de dire.
Non, je trouve ça cute.
OK.
Tu sais, c'est de véhiculer l'idée que c'est les Blood Tokens. Chaque carte, tu vois, il y a du sang. Tu vois, là, comme le Restless Blood Sucker, il y a même du sang dans le lampadaire. Là. Les chandelles, tu vois, les chandelles sont rouges.
Mm-hmm. Non, je vois ça. Là, ça devient des espèces de petits papillons là, comme il y a dans le trailer.
Ouais. L'archétype noir et vert, ça c'est vraiment bizarre. Dans Midnight Hunt, c'était les créatures dans ton graveyard. Ça, ils l'ont déplacé dans le vert et bleu. Dans Midnight, dans Crimson Vow, l'archétype noir et vert, c'est le toughness.
Ah.
Donc, Ancient Lumberknot, qui est Tree Folk, deux colorless, un noir, un vert.
Oh, crème, c'est cool, ça.
Un 1-4. Toutes les créatures que tu contrôles qui ont un toughness plus gros que le power font leurs dégâts avec le toughness plutôt que le power.
Ça me rappelle des choses.
Ah, imagine, ça veut dire que sur la carte là, 1-13, là, tu peux comme mettre un plus 2 au monstre, puis la place de taper de 4, de 13, elle va taper de 3. C'est le concept en crise. Là.
Non, mais c'est le. Toi, tu parles de Unhallowed Phalanx, qui est un 1-13.
C'est
dans cet archétype-là, pour 4 colorless, un noir, il rentre sur Battlefield tapé, mais après ça, il va fesser de 13.
C'est ça. C'est ça, je veux dire.
Ouais, c'est une commune, fait que t'en ramasses 2-3 de ça.
Hey, ça va bloquer en ST, hein.
Puis ça bloque, puis dès que t'as un opening, là, paf!
C'est ça.
Ouais, pis, ça va être très, très jouable.
Ça, ce que ça représente, c'est le, tu sais, avec la nuit éternelle, puis les vampires qui fuck le chien, c'est la nature d'Innistrad se tanne. Fait que c'est pour ça que dans Crimson Vow, il y a beaucoup de Tree Folk. Puis, il y a beaucoup de cartes de nature fâchée. Là. Tu sais, la vengeance de la nature. On voit l'autre carte importante dans cet archétype-là, le Dorman Grove, un enchantement. Parce qu'oubliez pas, j'avais mentionné, il y a beaucoup d'enchantements dans ce set-là. T'as comme un sous-thème d'enchantement. Bon. Pour toi, qu'on le laisse un vert, au beginning de ton combat, tu mets un counter +1/+1 sur une créature que tu contrôles. Puis si elle a un toughness de 6 ou plus, tu vas transformer ton Dorman Grove. On voit l'espèce de branche là, qui se transforme en main vengeresse. Ça dit dans le flavor text, « As the natural cycle of day and night grew twisted, all powers tear deep in the Ulvenwald. » L'Ulvenwald, c'est la grosse forêt où il y avait le Célestus.
Ouais.
Ça, c'est la nature à sort de ses gonds.
Mais tannée!
Puis là, ton enchantement, il se transforme en Gnarled Grove Strider, qui est un Tree Folk encore là, 3-6. Tu vois le 6 de toughness pour aller avec l'autre. Puis ça dit que toutes tes autres créatures ont vigilance et lui aussi. Fait que, tu sais, vu que t'as des gros toughness, t'es bon à la défense. Puis là, ben, si t'as ton Ancient Lumberknot que je parlais tantôt, ou d'autres cartes qui permettent de faire du dégât avec le toughness, il y en a d'autres. Bam! Fait que ça, c'est l'archétype noir et vert. Vous voyez le Sporeback Wolf, là? Un colorless, un vert pour un 2-2. Mais quand c'est ton tour, c'est un 2-4.
Ouais.
Là, c'est une commune. Ça a l'air niaiseux de même, mais dans un archétype que ton toughness matter, ça peut être une pas pire carte. Je vais en faire un dernier avant qu'on se lance dans la carte de la semaine. Le noir et le bleu dans Midnight Vow, on se rappelle, c'était les zombies Decay avec du contrôle.
Deux tokens. Ouais.
Cette fois-ci, il y a encore l'archétype de zombies, mais il n'y a plus les zombies Decay. Cette fois-ci, c'est le exploit. C'est-à-dire que tu vas vouloir sacrifier tes créatures pour avoir un payoff.
Ah, puis ça va être parfait avec les Decay de l'autre d'avant, c'est à la place.
Ouais, quand tu
les
mélanges. Mais là, on va rester dans Crimson Vow.
Excuse-moi.
Le Skull Scab, on se rappelle les Scabs, c'est les zombies assemblés. Dans Crimson Vow, c'est les zombies, c'est des Scabs. Les Scabs, des genres de zombies Frankenstein, alors que dans Midnight Hunt, c'était des zombies là, qui sortent de terre décomposés. Donc, Skullscab, ça, c'est la gang à Géralf, là, on s'en rappelle. Oui. Un bleu, un noir pour un 2-2 qui a exploit. Puis à chaque fois que tu as une créature que tu contrôles qui exploite un non-token, tu vas créer un zombie 2-2 token.
Fait que, lui, c'est cool, il arrive même pas à taper. D'habitude, les tokens zombies, ça arrive taper.
Ouais, pas ici. Puis, fait que là, lui, une fois qu'il est en jeu, puis là, tu as plusieurs cartes communes qui ont exploit, ben, il va tu sais, vu que exploit, tu dois sacrifier une créature, ben, lui, te permet de remplacer la créature sacrifiée par un zombie. Puis, by the way, exploit, tu peux faire exploit sur des tokens. Je vais vous donner un exemple d'une très bonne créature qui a exploit dans ce set-là, c'est le Fell Stinger. Je pense même que ça va avoir du construit du jeu en standard. Deux colorless, un noir, un zombie scorpion, Death Touch 3-2. Il y a exploit, fait que quand il rentre en jeu, il peut soit se tuer lui-même ou tuer un token ou une autre créature.
Oh, c'est bon ça.
Et si tu le fais, tu vas un target player va piger deux cartes et perdre deux de vie. Ça veut dire qu'en fin de game, si l'autre il reste juste deux de vie, là, ben tu peux le targeter lui pour le tuer.
Ouais.
Mais surtout, tu vas l'utiliser pour
espérer pogner quelque chose qui va le tuer.
Ouais, ouais, exactement. Puis c'est pas mal cool. Fait que ça, c'est un bon exemple. Dans le bleu, parce que comme j'ai dit, c'est un archétype noir et bleu. L'autre qui va bien que ça là, dans l'Uncommon, c'est le Biolume Egg. Deux colorless, un bleu pour un 0-4 Defender. N'oubliez pas, hein, noir et bleu, là, c'est contrôle. Hein, fait qu'on va chercher des counterspells pendant que vous draftez. Fait que ça te fait un wall 0-4 au tour 3. Quand il rentre sur le battlefield, tu scry 2, donc tu prépares tes prochains tours. Puis si tu sacrifies ton Biolume Egg, autrement dit, si tu fais exploit dessus, tu vas le retourner sur le battlefield transformé. Puis quand il se transforme, il devient le Biolume Serpent. Dans le fond, le serpent, il sort de l'œuf.
Ben, écoute, c'est un gros 4-4. Je suis un dentiste avec cette tronche-là, on va se le dire.
C'est un 4-4 que si tu sacrifies deux îles, il ne peut pas être bloqué. Fait que, tu sais, t'es va en ligne. Ouais, c'est pas mal de fun. Puis, y a une sous-thématique là, dans le lore de Crimson Vow. Il explore l'océan d'Innistrad, ce qu'il n'avait jamais vraiment fait dans les vieux sets. Fait qu'il y a beaucoup de kraken, de serpents, des pieuvres, des affaires comme ça. Là. Puis ça tourne beaucoup autour de la famille de vampires, les Stormkerr que j'avais parlé, là, qui étaient ceux qui étaient un peu virés Emrakul. Malheureusement, ils n'ont pas gardé cette storyline-là. Fait que là, ils sont plus comme virés les pieuvres dans l'océan. Là. Ils trippent là-dessus, le Runo Stormkerr. Ça, on va en parler la semaine prochaine de ça. Mmh. Des cartes, là, des communes faciles pour cet archétype-là. Là. C'était le bon vieux Doom Dissenter qui était autrefois dans mon quête. Un pour deux. Quand il meurt, tu le remplaces par un zombie 2-2. Fait que ça, c'est un target parfait pour faire du exploit. Tu peux chum bloquer, puis quand t'es tanné, ben, tu le remplaces par un zombie 2-2. Ça te dit, j'ai vraiment on voit le gars, il est dans le bois avec son crucifix dans la main d'Avacine. Là. Ça te dit, la place la plus dangereuse dans la forêt de Kessig, c'est d'être tout seul. C'est comique.
Eh oui.
Celle-là, je l'aime bien. Check ça, Tommy.
Ah, il est en train de vomir qu'il vomit.
Il vomit. C'est le Wretched Trong. C'est un 2-1 pour 2. Quand il meurt, tu cherches dans ta librairie pour un autre Wretched Trong. Puis tu le mets dans tes mains. C'est une commune, fait que tu peux empoigner 2-3 dans un draft.
Oui, je veux lire la quote.
C'est... Vas-y.
Oh non! Again!
Ouais, parce que dans le fond, c'est un zombie qui vomit un zombie qui vomit un zombie.
Fait que là, ben oui.
Très concept. Fait que ça vous donne une idée, là, l'archétype de exploit. T'as beaucoup de counterspell aussi que tu peux aller chercher, là, qui vaut la peine en attendant que tu places tes shit. Il y a plus de counterspell dans Crimson Vow que dans Midnight Hunt.
J'avoue, c'est bon, ça.
Il y en avait juste deux, je pense, dans Midnight.
Ouais. Ouais. Là, il y en a quatre. Puis il y a deux bounce spells.
Oh. Oh, yeah.
Six counter spells, tu veux dire, au total, avec les bounce.
Ouais.
Un bon mec.
C'est tout du Zen Stunt.
On va jouer bleu, puis on va se branler. Hein? Fait que, écoute, merci Jason pour ce début. On va y revenir en fin d'émission. Pour l'instant, on est rendu au très populaire segment de la carte de la semaine. Je pense d'ailleurs, c'est toi qui l'as choisi, Jason. Mais ça ne sera pas avant de remercier l'Abyss, notre magasin affilié 4490 Jean Talon Est, métro Saint-Michel, puis prenez une petite marche, ça fait jamais de tort. labyss.com sur Internet. Et là, vous pouvez utiliser le code promo TB2021 pour avoir 10 % de rabais sur tous les produits scellés en magasin. Non, c'est pas vrai. J'essayais de... C'est pas vrai. Faut y aller sur Internet. C'est pas en magasin pour le bonus. Fait que, on va écouter le beat à bon. M'a fermé ma gueule. Fait que Jason, c'est quoi t'as choisi?
Écoute, tu connais mon amour pour les flavor texts?
Je t'ai demandé d'arrêter de me texter une couple de fois là-dessus, ouais.
Non, les flavor texts de Magic.
Ouais.
T'as un personnage dans les flavor texts de Innistrad, là, depuis les premiers sets d'Innistrad en 2011. Il s'appelle le Old Root Stain. Okay. Il apparaît sur 6 cartes en tout en tant que flavor text. C'est tout le temps le gars qui a ce que t'as besoin. Par exemple, là, sur le Gaze Fuel Scarecrow, qui est un... comment on appelle ça? Un épouvantail que tu mets dans le champ. Là.
Ouais.
Ça dit dans le flavor text, ça garde les corbeaux loin. Puis ça marche aussi sur tes voisins. T'es comique. Le Niblis of the Urne, là, qui est le fantôme qui était dans l'urne, ça dit « J'ai jamais osé ouvrir la bouteille, mais je te parie maintenant que si tu le fais, tu n'auras... I'll bet you're wishing right... Ah oui, c'est ça. Si tu... I'll bet you're wishing right now you haven't been so curious yourself. Tu sais, c'est tout le temps comme des jobs d'humour, là. Tu vois, le spore crawler, ça dit, remember to come back in a few years when that fungus has died off, then we'll see what's in the
chest. Il est là depuis des années. Qu'est-ce que c'est ça?
Hein?
Zombie Bird en haut à gauche. C'est des vieilles affaires, ça.
Oui, c'est toutes des vieux. Ça, c'est pas des cartes de Crimson Vow. Ah, c'est des cartes des vieux sets d'Innistrad. T'as tout le temps le whole restain. Tu sais, you want that venom? Collect it yourself. I'm not losing another pair of Dragon Eye Glove.
Ben oui.
C'est à propos de
ça. Je pense que tu nous introduis à un personnage, là.
Ouais, ben là, c'est ça. Dans Crimson Vow, ils ont décidé d'en faire une... enfin lui donner sa carte.
Oh.
C'est le Old Root Stain. C'est dans Crimson Vow, mais c'est... Je pense que ça vise le commander, le joueur en multiplayer. C'est pour ceux qui, comme moi, aiment beaucoup mettre des affaires dans leur graveyard à partir de leur librairie. Le Old Root Stain, c'est le gars qui a tout le temps ce que tu as besoin. C'est un human paysan légendaire. On voit, il ouvre son manteau, puis il y a plein de breloques à l'intérieur. Là. C'est le gars qui va te vendre n'importe quoi. C'est le genre le pan shop d'Innistrad. Mmh. Un colorless, un noir, un vert pour un 1-4. Puis quand il rentre sur le battlefield ou au beginning de ton upkeep, tu te milles une carte. Okay. Si c'est un land, tu te crées un trésor.
Okay.
Si c'est une créature, tu te crées un insecte 1-1. Mmh. Puis si c'est ni un ni l'autre, tu ferais un blood token. Fait qu'il fait tout le temps de quoi au beginning de ton upkeep, quand il mille. Dans le fond, il fuel ton graveyard. Puis là, tu sais, tu vas mettre dans ton deck le plein de cartes là, qui run avec le graveyard, là, soit des flashbacks ou whatever. Tu sais, passer Golgari. Là. C'est le Whole Root Stain. J'ai hâte de bâtir autour. Puis je pense pas que ça va avoir beaucoup de play en standard, des affaires comme ça.
Bon, c'est assez. C'est trop imprévisible, je pense, mais c'est quand même honorable, un 4 de toughness.
Ça fait dans l'archétype.
Il te garde en vie pendant que tu gosses.
Ouais,
il fit dans l'archétype noir et vert. Puis il y a une grosse thématique là, de chaque set d'Innistrad, c'est tout le temps dans le graveyard. Moi, je m'amusais à bâtir autour de ça. Là. C'est pas pour le commander compétitif, là, mais c'est le fun le fait que non seulement tu fuel ton graveyard pour jouer avec plus tard dans la game, mais il te récompense de le faire et de plein de façons. Là, tu ram, tu as des créatures pour bloquer ou sacrifier. Ah ouais, ah ouais. Tu as des blood tokens pour piger des cartes et fueler ton graveyard.
Je le verrais Lompré mettre ça dans son deck avec son elfe zombie. Là, pour essayer de... Ouais.
Ça peut que ça arrive.
Ouais, ça regarde le plafond un peu. Ça, merci, ouais. Parfait. Donc, merci beaucoup, Jason, pour ce segment. C'est quand même pas mal cool qu'il y ait des quotes depuis comme 15 ans sur ce personnage-là qui vient de sortir en carte. Je trouve ça vraiment cool quand ils font ça. C'est pas la première fois que je l'ai dit. Je pense que je l'ai déjà dit dans l'épisode. Quel déjà? Non, OK, si toi tu sais pas, il y a personne qui s'en rappelle. Ça va nous amener à une autre batch de Beat à Bone, puis on vous revient pour finir ça avec les archétypes de draft. Fait que là, on venait de faire les bleus, noirs, on a fait les noirs, rouges, on a fait les noirs, verts.
Vert. On s'en va dans le vert, bleu.
Vert, bleu, OK, OK.
Vert, bleu. Okay. La carte signale dorée, c'est le Vile Spawn Spider. Un vert, un bleu, donc super facile à sortir. Il y a Reach, comme toutes les araignées. 2-3. Un peu comme le Old Rustain, au beginning de ton upkeep, tu milles une carte. Donc, il y a à peu près une demi-douzaine de cartes dans le set qui te font auto-miller dans le Uncommon. Puis surtout, lui, ce qu'il fait ensuite, c'est que tu peux payer 2 colorless, un vert et un bleu, le taper et le sacrifier pour créer un nombre d'insectes 1-1 égal au nombre de créatures que tu as dans ton graveyard. Donc, tu vas drafter, là, tu vas vouloir 15... minimum créatures dans ton deck vert et bleu parce que tu veux foutre des créatures dans ton graveyard. Je vais vous donner un autre exemple, le réclusive taxidermis, hein, celle qui fait des animaux empaillés, dans le fond, elle a fouillé dans le graveyard. Un colorless, un vert, c'est une druide 1-2. Tu peux la taper pour faire un mana de la couleur que tu veux, donc c'est très ramp, là, la couleur vert et bleu. Elle devient un 4-4 si tu as 4 créatures ou plus dans ton graveyard.
Grim, c'est pas pire, ça.
C'est, ouais. C'est pour deux, hein?
Pour c'est deux, bon, ça te fait un 4-4 si t'es capable de... Tu sais, au début, elle sera pas un 4-4, mais elle te permet de ramper dans de la mana. Éventuellement, ben, elle devient grosse.
Elle permet de sortir plus de monstres pour qu'il y ait plus de monstres dans ton graveyard et ainsi de suite. Ouais. J'aime ça la saveur de la carte, que ce soit taxidermiste comme rendu cinglé à vivre avec des prédateurs dans le fond du bois, fait que probablement...
Mais c'est une druide!
Ben oui, old druid.
Lis le favorite text.
Seek to preserve nature, but some go about it in rather unusual ways. Ben oui, c'est un druide, mais qui aime la mort. Écoute, tout le monde est le bienvenu dans le grand cercle de la vie.
Reprint, la fameuse mulch.
Ça, c'est bon, ça j'en ai
dans mes decks. Un colorless, un vert. Tu regardes les 4 premières cartes de ta librairie. Tu mets les laines que tu as révélées dans ta main et tout le reste dans le graveyard. Là, je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez plusieurs créatures dans votre deck. Ça, c'est une commune. Tu en mets une ou deux pour activer ton archétype. Ça dit, là, tu as flavor text, là. Marche, fais attention quand tu marches. Rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière clairière tranquille qu'on est allé. Parce que c'est une clairière dans la forêt d'Ulvenwall où il y a plein de squelettes à terre.
Et de squelettes.
Le graveyard. Comment cool. Et dans le bleu, tu sais, le sell-off and tumber. Encore là, c'est un zombie de la mer. Un colorless, un bleu pour un zombie 1-3. C'est un Merfolk Looter. Là, tu discartes une créature de ta main pour piger une carte. Dans le fond, tu veux fueler ton graveyard.
Ah ouais.
It no one fundamental truth. Bodies belong in the grave.
Je sais pas pourquoi, mais ça me rend tout le temps inconfortable. Les zombies bleus, là, c'est...
Oh, pauvre Lompré. Pour vrai?
Ouais.
Moi, c'est
quoi, comme ça, noir, vert, mais pas bleu.
Ah. Des zombies bleus?
Ouais, je trouve ça bizarre, moi.
Non, mais c'est cool, c'est les Frankenstein. C'est des zombies assemblés par la science. Tu vois, ils ont
mis une image. On règle ça, là. Faut régler ça, là. Voyons, Lompré,
qu'est-ce qui se passe?
OK, ben... on peut
tu parler off micro là.
Tu vas voir tantôt, il y a des vampires blancs, t'as pas fini maintenant.
Non mais ça c'est correct. T'es capable de vivre avec ça.
Ah ouais, OK.
En commune, un bon payoff là, c'est fais ça, t'en pognes un 2-3. Skywarp Scahab, c'est un zombie Drake, hein? ça va faire capoter Lompré. 3 qu'on le laisse 2 bleus pour un 2-5.
La face, toi, il vient d'abandonner Magic et Mold.
Fly,
il y avait un bon feeling, puis tout est fini. Là.
Quand il rentre sur le battlefield, tu peux exiler 2 créatures de ton graveyard pour piger une carte. Mais l'important, c'est d'avoir un 2-5 dans les airs. Cet archétype-là, je le maîtrise moins bien que les autres. Là. Je vois pas encore. J'ai hâte de voir si l'impact que ça va avoir, mais c'est beaucoup mettre des créatures dans ton graveyard puis Ça va dépendre de combien t'en as.
Capitaliser sur tes monstres dans ton graveyard. Ben, juste de pouvoir transformer deux cadavres dans ton graveyard dans une carte qui remplace.
Ouais.
C'est pas tout puissant, mais c'est le fun que ton monstre soit gratuit au niveau carte.
On n'a pas tout vu, je pense aussi.
Effectivement, on n'a pas
tout vu. Non, mais je vois rapidement. Là, sinon,
non, mais je parle dans les spoilers.
Oui, toutes les cartes sont sorties. Vous allez voir le. Checker dans le bleu et le vert, ce qu'il y a le mot graveyard dedans. Okay. C'est cet archétype-là. On va retourner au mariage. Dans le bleu et le noir. Le blanc et le noir, c'est ce qu'on avait vu en fait dans Zendikar Rising, c'est le Life Matter. Dans le fond, vous vous rappelez tantôt mon party vampire là, qui, à chaque fois qu'il gagnait des vies, il faisait des blood tokens. Là. Ben, il va aussi dans cet archétype-là. Tu veux à chaque tour gagner une vie. Puis la carte dorée, c'est le Markov Purifier, c'est le curé du mariage. Un colorless, un blanc, un noir, c'est un Vampire Cleric 2-3 Lifelink. Au beginning de ton end step, si tu as gagné de la vie ce tour-ci, tu payes 2 colorless pour piger une carte.
Ça, j'aime ça.
Puis ça dit là, dans le flavor text, là, l'encens cérémonial du mariage était une concoction d'Edgar en prenant du sang là, de ses humains favoris, là, des dynasties d'humains favoris. Fait que très sanglante comme carte. Là, on voit qu'il fait aller l'encens un peu partout, puis ça fait un gros nuage.
C'est l'encens qui goûte bon, ça.
Ça sent le tremblé mélangé avec un peu de charrette.
Tu sais, quand je te disais tantôt, ils mettaient du sang dans toutes les images qu'ils peuvent, là, ben même l'encens fait du sang.
L'encens, ça enjoy!
Puis là, t'as des petits payoffs comme ça, là, comme la chauve-souris courrier. Hein, on se rappelle la semaine passée les invitations au mariage, Tommy?
Ouais.
Ça a été apporté par une chauve-souris. Tu vois, ces deux colorés sont noirs pour un 2-2. Déjà là, c'est quand même bon. Là, il est flying. Là. Puis quand il rentre sur Battlefield, si tu as gagné de la vie ce tour-ci, tu le casses à ton deuxième step.
Ouais.
Tu vas retourner une créature de ton graveyard dans ta main. Tout simplement.
Ça fait un petit peu l'inverse des pouvoirs qu'il y a présentement dans Midnight Hunt, là, que souvent c'est comme l'espèce de spectacle, là, mais
ouais.
Il y a si long
que tu fais du dégât, t'enlèves. Ouais, c'est vrai que c'est comme
un. Quand gagne quelque chose.
Ouais. Moi, je vous dis, le courrier bat, là, ça va vraiment être très bon. Prenez-en une ou deux, ça vaut la peine. Parce que
c'est flying.
2-2 flying, puis il y a beaucoup d'aura dans le set hein, pour mettre dessus. Là.
C'est vrai.
Mais sinon, ma préférée, écoute, dans cet archétype-là, c'est le Desperate Farmer, un 2-2 pour 3 lifeling. C'est un humain paysan qui vient de découvrir que son cheval est mort. Si tu as une autre créature qui meurt, tu transformes ton Desperate Farmer. Hein, a tragic moment, pushed him to a blasphemous act. Il a transformé son cheval en cheval zombie. Il devient le Deprave Harvester.
Once he tasted that dark power, there was no turning back. Fait que c'est peut-être pas son cheval qui est mort, c'est peut-être lui qui a sacrifié le cheval.
Peut-être.
Non, c'est pas.
Ça, cette carte-là, c'est une commune. Fait que c'est facile d'avoir une ou deux. Elle est bon dans l'archétype exploit, bleu et noir. Elle est bon aussi dans l'archétype noir et rouge avec les blood tokens. Surtout, elle permet de enable le life gain pour l'archétype blanc et noir. Donc, tu vois qu'ils se mettent un peu partout. Là.
C'est ça qui est cool avec Lifelink, hein, c'est que ça te donne de l'énergie.
Oui, ça fait un bon swing. Un 4-3 là, au tour 4. Pour
Lifelink, une différence de 8 si tu le passes dans le joueur.
Oui.
Un de 8 points, comme il dirait.
On va aller dans l'archétype rouge et blanc. Celui-là, c'est le traditionnel aggro, sauf que cette fois-ci, il est précis, il faut que tu aies deux créatures ou plus qui attaquent.
Ah.
Puis ils mettent l'emphase là-dessus. C'est la carte gold, c'est le Markov Waldzer. Un Waldzer, c'est un danseur. C'est quoi? C'est une valse. Un valseur.
Ouais,
deux colorless, un rouge, un blanc. On voit, il invite, là, viens danser ici, ça se danse à deux. T'sais, c'est ça la thématique, quand t'attaques à deux, on danse en gang. 1-3, Flying Ace. Déjà là, tu fais comme, OK, mais deux, pour quatre. Mais c'est surtout qui indique là, comment tu veux faire cet archétype-là. Au beginning de ton combat, t'as deux créatures qui vont gagner plus 1, plus 0, until enough turn. Puis là, vous allez voir, il y a plein de cartes qui ont rapport avec ça. Là, comme en autre danseur, le Alluring Suitor, deux colorless, un rouge, un vampire, 2-3. S'il attaque avec deux créatures, exactement deux créatures, Pas trois, pas une, deux.
Ouais.
Il le transforme, il devient le Deadly Dancer. Là, on voit que la vampiresse, là, elle n'en revient pas à quel point il est cool. C'est un 3-3 Trample. Quand il se transforme, ça te donne deux manas rouges, puis que tu peux garder jusqu'à la fin de ton tour. Puis tu peux payer deux manas rouges pour y donner à lui et une autre créature plus 1, plus 0. C'est vraiment concept, hein? Ça fait la même chose que le Markov Valsar.
Ouais, j'aime beaucoup ça, moi, ça.
Ouais. Puis, là, attends, un autre exemple, qui est le. Pardon?
Y'a-tu un vampire qui fait du breakdance aussi?
L'ombre! Un peu de respect! Il est en feu à soir! Tu iras te coucher de bonne heure, là! T'es mal commode!
Ouais, il est
tard. Griffwing Cavalry, ça prenez ça, c'est vraiment bon. Là, c'est dans le même archétype. C'est un Human Knight 2-2 Flying pour 4. Il y a Training, on avait parlé la semaine passée, la mécanique Training. Mais surtout, quand il attaque, tu peux payer 2 pour donner Flying à une autre créature. Donc, ça va bien là, quand tu es en archétype là, d'avoir deux créatures qui attaquent. Mais surtout, mon préféré, là, ça, c'est ce que je veux jouer dans cet archétype-là. Il est commun, fait que tu peux pogner 2-3. Le Estwall Shield Basher. Check ça, Tommy. 3 colorless et un blanc pour un 4-2. Quand il attaque, tu peux payer un colorless pour qu'il soit indestructible until end of turn.
Ah, c'est ça. Oui, OK, ça me va. J'aime
Mais
ça.
Ce qui est vraiment cool, la carte, c'est regarde son bouclier. C'est quoi?
Ouais, c'est comme une porte de grange.
Lis le flavor text.
OK, the door to her home survived the fires of the malignus. Now it's her greatest weapon. C'est bon.
Il a pris sa porte de...
Attends un peu, Jason. C'est quoi qui est... Là, on était dans un mariage de vampires, puis là, il y a un soldat humain. Est-ce que c'est comme du lore qu'on est en train de découvrir tranquillement? C'est quoi qui se passe?
Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que les humains de Stenzia... à un moment donné, ils vont se tanner des vampires.
Oh!
Puis il va y avoir une révolte.
Comme moi, après Interview with a Vampire.
Oui. Daybreak Combatant, où ce qu'on voit que des humains qui sont vraiment tannés, là, puis ils s'en vont vers la forteresse d'Olivia Voldaren pour péter le mariage. 2 colorless, un rouge pour un 2-2 haste. S'ils rentrent sur le battlefield, une créature, donc lui ou une autre, gagne plus 2, plus 0. Lis-nous le flavor text.
After weeks of unending darkness, a glimpse of dawn was all the people of Stencia needed to rekindle their will to fight.
Donc, tu sais, tantôt j'avais parlé, la nature se révolte.
Ouais.
Donc là, t'as comme les gros hommes arbres là, qui s'en viennent péter le château du mariage.
On est tanné d'être des burgers.
Puis, t'as, dans le même moment, t'as les humains aussi qui pètent leur coche.
Mon corps, mon sang.
Je trouve ça hot, man. T'as les vampires qui soquent toutes les ressources, puis t'as la nature puis les humains qui sont tannés.
Oui.
On dirait que ça représente quelque chose qu'on vit.
Bien sûr, tu sais, qui dit humain dit l'église de Sigarda, hein, le vert et le blanc. Donc, c'est l'archétype blanc et vert. C'est le Sigurdian Paladin. 2 colorless, un vert, un blanc pour un 4-4.
Cool.
Human Knight. Quand tu mets un plus un counter sur une créature ce tour-ci, ton paladin, il a Trample et Lifelink. Puis tu peux payer un colorless, un vert, un blanc pour qu'une créature que tu contrôles qui a un plus un counter dessus a Trample et Lifelink.
Ah, il n'y a pas de mécanique pour amener les compteurs plus un en jeu, lui, par contre.
Non, mais ce que vous allez voir, c'est que c'est la mécanique training. Par exemple, le Cloaked Cadet, ça pogné ça, hein, c'est vraiment bon en draft. Là. 4 colorless, un vert pour un 2-4. Il y a training, ça veut dire que s'il attaque avec une créature qui a un power plus gros que lui, par exemple le paladin qui est un 4-4, tu y mets un counter plus un dessus.
Ah, ben voilà.
Puis à chaque fois que tu as un ou plusieurs counter plus un sur un ou plusieurs humains que tu contrôles, tu piges une carte.
Oh, tabarnak! OK.
Fait que les verts et blancs, les soldats de Sigarda, c'est à chaque tour, ce que tu veux, c'est mettre un counter plus un.
Ben oui, pour plus jeune carte.
Il y a plusieurs cartes qui permettent de faire ça. Je vais vous donner un autre exemple. Le Dawnheart Disciple. On se rappelle, les Dawnheart, c'est les sorcières qui avaient fait le rituel au Celestus.
Moi, je m'en rappelle. En tout cas, j'écoutais ce terrain basique, épisode 155.
Un colorless, un vert, Human Warlock 2-2. À chaque fois que tu as un humain qui rentre, Notez bien, hein? Pas un vampire, pas un werewolf, pas un zombie. Un non. humain qui rentre sur le battlefield sous ton contrôle. À gang plus un until enough turn.
Oh.
T'as comme un autre sous-thème aussi. C'est une commune d'humains.
Ouais. Moi, je l'avais reconnu, ça, depuis tantôt avec la soldat, avec la porte de grange.
Fait que là, si, mettons, t'as ton cloquette cadet qui est un 2-4, puis là, t'as ton Donard Disciple qui est un 2-2, t'as un humain qui rentre, ton Donard, il devient un 3-3. Là, quand il va attaquer, ça va trigger le training sur ton cadet.
Puis
ça va te faire piger une carte qui va être probablement un humain que tu vas pouvoir mettre en jeu pour trigger à nouveau au prochain tour ton... tu vois où je veux en venir, là? T'as une grosse synergie.
Moi, j'ai un plus un humain.
Ouais.
Ça, c'est vert et blanc. Moi, je pense que ça va être très fort.
Il y a quelque chose.
Ben, à date, c'est l'aggro le plus agressif que je vois.
Ouais, puis là, tu vois, là, le Griff Rider, deux colorless, un blanc, c'est une commune, fait que tu peux en pogner plusieurs. Flying 2-1 avec training.
Ah. Ouais, ça, c'est cool, ça.
Tu sais, c'est training, il va se mettre un counter +1/+1, il est facile à dépasser, il est juste un 2 de power.
Ouais.
Ouais.
Fait que ça, c'est le vert et le blanc. Vient ensuite l'archétype. Vous rappelez le bleu et le rouge dans Midnight Hunt, c'était du Instant Sorcery.
Avec le stétine. On dirait Krang des Turtles qui a comme fait du sexe avec Mothra de Godzilla.
C'est le Wandering Mind, un colorless, un bleu, un rouge. C'est une horreur 2-1 flying. Quand il rentre sur Battlefield, tu regardes les 6 premières cartes de ta librairie. Tu peux prendre un non-creature, non-land card, autrement dit un instant sorcery ou un enchantement. Tu la mets dans ta main, tu mets le reste dans l'ordre que tu veux au bottom de ta librairie. Mais c'est surtout ce que ça indique, c'est que l'archétype rouge et bleu, c'est le traditionnel non-creature spell. Dans Midnight Hunt, c'était surtout des instant et sorcery qui faisaient booster ta créature. Ça avait genre prowess. Ouais. Tandis que dans Crimson Vow, c'est plus ce qui rappelle le gobelin là, dans Ravnica. Comment il s'appelle?
Ouais.
Qui fait deux à tout autour de la table.
Gutter Snipe.
On voit le Kessig Flame Breeder. C'est une commune. Fait que t'as tapant 2-3. Un colorless, un rouge, un 1-3. Il bloque très bien. À chaque fois que tu casses un non-creature spell, il fait un dégât à chaque adversaire. Ce qu'on voit là, c'est un human shaman là, qui a commencé à maîtriser le feu. Hein. J'avais parlé dans Midnight Hunt, c'est que les humains, ils ont des contacts avec les sorcières, puis que l'église d'Avacyn est un peu tombée, ben, ils commencent à faire des spells là, de shaman, puis donc lui, il joue avec le feu. Là. Tu vois, ça dit Hunter Fire was meant for slaying monster in the Ulven Wall, but that never stopped Rallen from showing it off. Tu te rappelles ce que j'ai dit, Tommy, tantôt, il y a deux bound spells, puis 4 counter spell dans le set, ça trigger ce gars-là. Dans le bleu, tu vois le Whispering Wizard, 3 colorless, un bleu pour un 3-2. À chaque fois que tu casses un non-creature spell, tu crées un spirit, un Earth Flying en token. Tu peux le faire une fois par tour.
C'est pratique, ça.
Ouais. Lui, fun fact, là, c'est le Wizard. On voit, il y a des genres de des lentilles ou ce qu'il voit des fantômes.
Ouais.
C'est la suite d'une histoire dans Midnight. C'est une carte qu'on voit beaucoup en standard ces temps-ci. Donne-moi 5 secondes. J'aurais dû la sortir au début. Dans Midnight Vow, il y avait le Consider, hein, qui est un instant pour un bleu, que tu regardais sur ta carte de ta librairie, tu pouvais le mettre dans ton graveyard et piger une carte. Ça te disait que dans le flavor text,
c'est moi qui le dis. Evolved Gasp in Surprise. Either a very strange insect had crawled into one of the lenses or he was seeing Geist at last. Fait qu'il a réussi à trouver comment voir les fantômes avec son apparatus, là.
Exactement. Fait que la carte Consider, c'est il cherchait, tu sais, il avait créé une espèce de paire de lunettes. Puis le Whispering Wizard, on le voit que là, tu sais, à cette heure, j'ai une façon de voir les fantômes.
Ah ouais, il est rendu avec un iPad, là.
Lis le flavor text.
Evold was aghast when his device revealed the full scope of the Geist infestation. Une infestation de fantômes est excellente.
Mais les fantômes, ça a toujours comme une valeur, là. J'imagine, dans cet univers-là.
Bon, oui, c'est l'archétype blanc et bleu. On y va tantôt, tu vas voir.
Ouais.
Repository Scab Commune. C'est un zombie bleu hein, pour faire fâcher longtemps. Ouais. Trois colorless, un bleu pour un 3-3.
Je suis plus déçu.
Bon,
alors, tu sais comment il est cool, gars. C'est l'électricité qui l'anime.
Moi, en tout cas, je veux dire que autant que lui, il les aime pas autant. Moi, j'adore ça, les zombies bleus, depuis longtemps. Ouais. Il y en avait eu dans l'autre set avant, puis moi, je trouvais ça cool. Puis Lompré, il connaît rien. Puis je vais faire un deck de zombies bleu, blanc, noir, juste pour faire chier Lompré.
Tu vois, il y a Exploit. Non. Donc, tu sais, il va toucher aussi à si tu fais l'archétype noir et bleu. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte. Là. C'est un, pour 4, c'est un 3-3, fait que c'est un très bon body. Puis si tu exploites avec, tu peux aller chercher un instant ou un sorcery dans ton graveyard. Ah, autrement oui. dit, le counter spell, tu as utilisé le tour avant.
Ouais.
Mais lui, il te permet d'aller le rechercher. Là.
Là, tu peux aller, tu peux sacrifier un de tes tokens qui traîne ouais. En bas à droite. Là.
Ben, les fantômes que.
Ah, on va avoir des fantômes tantôt. Je suis prêt. Les esprits.
Ouais. L'avant-dernier archétype, les fantômes blancs et bleus. C'est l'archétype que qui veut tu veux des enchantements dans ton deck. Donc, la carte goal, c'est le Brian Cumber. C'est le fantôme des profondeurs là, qui fouille dans les coquillages. Un colorless, un blanc, un bleu pour un spirit 1-1. Quand il rentre sur Battlefield ou qu'il se fait targeter par un aura, hein, un enchantement, tu crées un spirit token flying. Puis, il y a la mécanique d'Esther qui est revenue. Fait que s'il est dans ton graveyard, tu payes un bleu et un blanc. Il revient en aura. Fait que là, c'est l'espèce de couronne fantomatique que tu mets sur... Par exemple, le token 1-1 que tu avais créé le tour d'avant, qui fait, dans le fond, ce qu'il donne, c'est son habilité à la créature que tu vas le mettre dessus. Le Brian Bound GIF, ça fait en sorte que c'est un aura que tu mets sur une créature que désormais, quand que le Brian Bound GIF rentre en jeu ou se fait, la créature qui est dessus se fait targeter par un aura, ouais. ça crée un spirit token 1-1 flying. Fait
ben, que bon, ben, ça, c'est une carte qui te donne trois monstres dans le bleu-blanc. Là, c'est
ouais.
fait que, c'est que, plus comme rouge ou vert, c'est patente.
Ben, là, ce que tu veux faire que tu as dans cet archétype-là, c'est à peu près 8 auras. Mais sinon, tu remarques là, les fantômes, ils créent des auras. Là,
ah
il,
oui,
le Disturb,
ah oui.
il revient tout le temps en aura. Fait que ce que tu veux, c'est le payoff là-dessus. Là. Je vais donner un autre exemple. Distracting Gaze, deux colorless, un blanc. Quand il attaque, tu tapes une créature que ton adversaire contrôle. Ça, c'est très fort. Mm-hmm. Puis tu peux payer 5 à partir de Graveyard pour le ramener en aura que la créature acquiert cette habilité-là. Fait, par exemple, tu mets ça sur un token 1-1. Quand ton token y attaque, il va taper une créature que l'autre contrôle, fait qu'il ne peut pas bloquer. Un autre exemple, c'est le Mischievous Cat Gaze. Ça va être vraiment fort. Un colorless, un bleu pour un 1-1. Jusqu'à date, il n'y a pas grand-chose à péter les bretelles. C'est un chat fantôme. Sauf que s'il touche ton adversaire, tu piges une carte.
C'est quand même cool. Là.
Mais ce qui est cool, c'est son Disturb. Tu sais, deux colorless, un bleu, tu le ramènes du graveyard en tant que aura qui fait exactement ça. Fait que tu le mets sur ton Spirit Flying 1-1 que tu avais créé avec ton Brian Cumber.
Ben oui, ben oui.
Ton Spirit 1-1 Flying qui passe par-dessus les créatures de l'autre, puis tu vas piger des cartes.
Là, t'arrêtes pas, man. Pige, aura, spin ça, Steve, ouais. man.
Ah, j'ai l'impression que si tu joues ça, ton adversaire va essayer de. Garder tes bébêtes en vie plutôt que
de les tuer. Ben oui, mais il va essayer de te deux pour un, là, tu sais. Mais on va voir comment ça marche. Mais check, regarde ça va être vraiment fort parce que c'est bon aussi dans l'archétype noir et blanc de Life Game. Là, on avait parlé la semaine passée, là, le Kindly Ancestor, tu sais, Lifelink 2-3 pour 3, à le Disturb, tu la ramènes en jeu pour un aura qui fait comme un Spirit Link.
Ouais.
Tu sais, c'est très bon dans ces deux archétypes-là, puis ça permet de faire des swings de vie. Là. Checker, ça, c'est un des fameux counterspells que je parlais tantôt. Le Gaze Slide Snare. On voit que les fantômes ont emprisonné un humain dans une lanterne. Deux colorless, un bleu. Il te coûte cependant un de moins si tu contrôles un spirit, puis un de moins si tu contrôles un enchantement.
Wow, c'est donc bien sympathique, ça.
Fait qu'il va te coûter un bleu. Puis ça te permet de counterer un spell à moins que l'autre paye 3 colorless.
Ouais, j'aime ça.
Ouais.
Ouais, j'aime ça, ces deux triggers-là. Je trouve ça le fun. Je pense que celui, je me rappelle le plus loin, c'était genre l'espèce de lightning bolt qu'il y avait dans Dominaria, là, que si t'avais un wizard en jeu.
Ouais. Wizard lightning.
Puis je trouve que c'est le fun. Ça rajoute. d'une synergie qui n'est pas comme indispensable, mais qui est rusée entre deux, trois cartes différentes. Moi, j'aime bien gros ça. Là. Moi, ça, à date, c'est, je dirais, ça serait probablement le blanc-bleu qui m'intéresse. Là. Puis le bleu-noir. Pour faire
ça, tu peux le mettre dans les autres archétypes. Tu sais, tu peux le mettre dans le bleu-noir, tu peux le mettre dans le bleu-vert, tu peux le mettre dans le bleu-rouge. Donc, mais où il va marcher le mieux, c'est dans le bleu-blanc.
Zombie dans ta face.
Ouais.
Puis, lis-nous le flavor text, tiens.
Hey, moi aussi, j'aime ça faire ça. J'aime ça quand tu me dis de lire ça. Là, je vais commencer juste après ma phrase, puis je voulais juste... tu sais, l'ompris, hein, je fais juste comme du show. Hein, je t'haïs pas pour vrai. Je t'haïs juste quand on joue à Magic.
Moi aussi, moi aussi.
OK, c'est bon. Fait que là, parle plus, là, l'ompris. Là, c'est à moi de parler. Je vais lire le flavor.
Go.
Tamil had always wanted a closer look at a Geist's lantern. Now he had an eternity to study one. Ben oui, il est jamais dedans. Ah ben, tabarnak. Ah ben, tabarnak, comme dans mon roman.
Dernier archétype, le et bleu, non le moindre.
Le rouge vert, hein, on manquait de loup-garou à date.
Ouais, c'est le retour des loups-garous, le Daybound. Ce que ça représente, c'est que, tu sais, j'ai dit, là, la population est en crise, les humains.
Ben oui, tannin, là, on n'est pas
des
burgers.
Ils s'en viennent péter le mariage. Puis l'autre, c'est la nature est en crise, ça s'en vient péter le mariage. Puis, qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges les deux?
Ça fourre.
Ça fait du rouge et du vert. Ça
OK, oui, 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 OK, OK.
Fait que le Child of the Pack, deux colorless, un rouge et un vert pour un 2-5. Tu peux aussi payer 4 pour créer un loup 2-2. Puis il y a des bounds. C'est-à-dire que si un joueur casse pas de spell, ça va devenir la nuit. Puis à ce moment-là, c'est un 5-5 trample qui donne plus 1, plus 0 à toutes les autres créatures.
C'est
le chaperon rouge, mais en loup-garou.
Check le six-pack après ce chaperon rouge. Là. À moins qu'il aille manger, parce que probablement... Bon, OK, ça peut être un loup-garou femelle, mais on ne voit pas comme... En tout cas, je...
Ben non, mais c'est le chaperon rouge qui est un loup-garou. Là. C'est juste ça.
Ah, OK, c'est bon. On voit-tu comme des boules de filles? C'est ça qu'on voit.
Non, t'en auras pas ce soir, Tommy.
Ouais, en tout cas, peut-être qu'il va en
avoir. Les boules, c'est les robes de mariage. Mais check. L'archétype rouge et vert, ce qui est vraiment drôle, c'est que dans Midnight Hunt, c'était surtout des werewolves. Puis dans Crimson Vow, c'est surtout des loups. Donc, on va voir beaucoup de loups. Là, j'ai un autre loup-garou qui est très bon dans cet archétype-là. Mais dans le fond, là, ce que tu veux, c'est d'avoir des loups et des loups-garous.
Bon.
Puis c'est très aggro beatdown. Le Wolfkin Outcast, hein, le encore un ermite là, que personne veut faire avec parce que c'est un loup-garou. 5 colorless, un vert pour un 5-4, c'est beaucoup. Là. Ça coûte 6. Cependant.
Un Craw Worm, c'est bien meilleur.
Ben c'est ça. C'est le même coup qu'un Craw Worm. Mais check, si t'as un loup ou un loup-garou en jeu, il te coûte 2 de moins. Fait qu'autrement dit, il va te coûter 4. 4 pour un 5-4, c'est vraiment bon. Hein.
Ouais,
c'est vrai. Puis là, il y a des lampes. Ça dit dans le fait. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Celui d'en bas, là. The villagers feared him. The Cathars scorned him. Only in the wilds did he find a family that accepted him.
Ah, oui, il vit dans la nature. Là, il devient le Wedding Crasher.
Oh, le Wedding
Crasher. 6-5. À chaque fois que Wedding Crasher ou un autre loup ou loup-garou meurt, tu piges une carte. Fait que c'est vraiment un archétype tribal. Lis le flavor text.
C'est ça. He raged not just against vampires, but against civilization itself. Il est un tabarnak après la civilisation. Mais là, écoute, ça prend des autobus des fois, là. Vendra pas.
Oui, mais pas des autobus de vampires, peut-être.
Les ventobus, que ça.
Ouais.
Dans les communes, il y a beaucoup de loups qui coûtent un ou deux à caster, comme le Snarling Wolf. Ça, c'est le bon vieux, là, comme le Root Walla. Oui. Pour un vert, c'est un 1-1. Puis tu payes deux, il devient un 3-3 until enough turn.
Mais ça, il y en a dans le Midnight Hunt.
Oui, il est reprinté.
Ah, oui, oui.
Mais tu sais, c'est la base, là. Puis tu sais, c'est bon, vraiment. Tu sais, quand je dis. Tu sais, tu mets tour 1, tu mets ton Snarling Wolf, puis il va donner ton rabais quand tu veux éventuellement casser ton Wolfkin.
Ouais, c'est ça. Puis c'est super bon le concept de pouvoir payer pour le rendre plus 2, plus 2.
Oui, tu payes 4, il va gagner plus.
Juste le faire une fois, mais c'est que c'est un 3-3 qui coûte 1. Là, si tu joues bien, là, c'est quand même assez solide.
Puis ça joue très bien aussi avec l'archétype vert et blanc si tu veux triggerer du training. Du
training, ces affaires-là. Ben oui,
ou le fessique, le toughness. Là, mais on s'en fout parce que le power est pareil. Là.
Les rangs.
Check dans le rouge, le loup commune dans le rouge, le Hungry Ridge Wolf, avec une splendide lune et miraculeuse en arrière-fond. Un colorless, un rouge pour un 2-2, hein? C'est un bon vieux Grizzly Bear. Tant que tu contrôles un loup ou un loup-garou, il est 3-2 Trample.
On aime ça.
3-2 Trample pour... c'est un autre loup, bien sûr. Fait que là, tu sais, mettons, tu tour 1, tu mets ton Snarling Wolf. Tour 2, tu mets ton Angry Witch Wolf. Ben, tu sais, t'es équipé pour veiller tard. Là.
C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe.
Puis, le flipper en commune, c'est le Hook Hand Mariner. C'est un 4-4 pour 4. Ça, c'est, je dis tout le temps, là, toutes les sets ont tout le temps en commune, dans le vert, un 4-4 pour 4. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça bon. Ça, là, c'est tout le temps, à chaque fois que je le vois, là, j'ai déjà first pick des affaires de même.
Ben,
je trouve tout le temps que ça punch above its weight dans le draft.
4-4
pour 4, simple.
On va censurer ce dernier 30 secondes-là. Jason, quel ce que tu dis là?
Ben, mais c'est bon,
ça,
hein?
C'est vrai que ça se tient, c'est vrai que ça se tient.
La plupart des créatures ont tout le temps 3, tu sais.
4-4 pour 4. C'est le fun de le flipper aussi, parce qu'il
garde
son 4 de power, il garde son 4 de toughness, mais là...
Il vient un 6-4, tu peux pas être bloqué par des créatures qui ont 2 ou moins. Fait que t'as pas de tokens qui vont le chum bloquer. Puis, tu sais, c'est pas mal nice. C'est pas mal nice.
Ça, tu m'as convaincu. Jason, c'est correct, on censurera pas le bout que tu viens de parler de ça.
Fait que, on a fait le tour des archétypes. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le moment de parler.
J'ai hâte de voir ça. J'aime ça, moi, le concept d'un petit peu construire les archétypes autour d'une uncommon deux couleurs. Là, me semble que c'est semi-récent. Là. On l'avait vu au set des écoles l'année passée. Là,
non, mais ça a commencé. Chacun des draft guides qu'on a fait, il y avait tout le temps ça.
C'est pour ça
que tu dominerais.
OK, bon, ben voilà.
Et dans Dominaria, il y avait des légendaires Uncommon là,
ouais,
qui étaient dorés.
Ouais,
c'est là que ça a commencé.
Il y avait chose Imazugi, là, que si t'as un de toughness ou de power, tu peux plus être bloqué. Là, c'est con.
Oui, oui. Mezawa.
C'est ça. J'ai Mezawa, Schnagger, Zuki, là, en tout cas.
C'est bon pour les new parce que si tu sais pas quoi prendre au début, quand tu ouvres ton premier pack, ben pogne la Uncommon dorée, puis tu peux quasiment après ça force drafter autour de ça.
Bon.
Puis tu vas avoir. Tu te gardes dans l'archétype, puis t'as de quoi. Tu vas pas nécessairement avoir le deck le plus fort, mais t'as de quoi qui est safe à la soirée. Là.
Ouais, puis tu vas en avoir un qui va t'aimer.
Ouais.
Ça vaut cher, un deck qui t'aime. Lompré, un feeling, veux-tu parler?
À date, je suis assez satisfait. Il y a du flying et du lifelink en masse. Fait que c'est toujours bon, ça, en draft.
Fait que, qu'est-ce que t'espères te bâtir, là?
Ben, la bleue semble inévitable, mais sans zombie.
C'est correct, moi, toutes les prendre des zombies, puis moi, les envoyer. Pensez-vous qu'ils font pipi puis caca, ces zombies-là? Les Franken-zombies? On devinera peut-être une autre fois. Merci bien gros, Jason, pour ce tour d'horizon. Très hâte. On vous encourage encore une fois à aller faire un tour à votre... magasin de cartes locales pour aller probablement découvrir de la grosse magie toute puissante. Merci, Lompré.
Yes! Ça m'a fait plaisir.
Salut les magiciens.
Ouais, ben salut les magiciens. Je vous souhaite une bonne soirée, les magiciennes aussi. Hein?
Parfait, parfait. Puis, ben écoute, j'ai oublié de dire à Chinook qu'il vient de nous faire un graveyard. Fait que t'essaies donc de nous faire un beau graveyard, Jason.
Graveyard.
OK. Merci Jason pour ce dossier-là. Merci aussi à Bone qui nous a fait la beat, à Martin de Production Podcast qui s'occupe du montage. Qui d'autre? Je pense qu'on fait le tour. Là. Ouais. Mon nom est Tommy Godette. On est disponible sur Spotify, mais c'est mieux d'aller sur Radio H2O. Et je vous souhaite d'être le moins manascrou possible.
H2O Web Media.